BW. Droits et libertés.
Plongé dans des eaux bien brunes cette semaine dans Droits et Libertés, avec la résurgence du discours d'extrême droite brandi notamment en Allemagne par les mouvements Pegida et le parti AfD. Nous parlons également du 11 septembre 1973, date funeste à laquelle le dictateur chilien Augusto Pinochet est arrivé au pouvoir. Au micro Sandrine Blanchard, bonjour à tous. Nous ne sommes pas d'extrême droite, putain, on n'est ni de gauche ni de droite. Voilà ce que crient ces manifestants le 1er septembre 2018 dans une vidéo postée par la journaliste allemande Dunja Hayali. La journaliste s'est rendue à Chemnitz, dans l'est de l'Allemagne, pour tenter de discuter avec des militants de l'AfD, de Pegida et de Pro Chemnitz, un autre mouvement radical lui aussi. Il y a des gens au centre, s'énerve un manifestant quand Dunja Hayali essaie de les convaincre qu'il y a des différences entre la droite et l'extrême droite. Ces vidéos et d'autres images en provenance des manifestations qui ont dégénéré ces dernières semaines en Saxe notamment, montrent que de plus en plus d'Allemands osent ouvertement revendiquer des idées d'extrême droite qui ont pourtant longtemps été tabous dans le pays du fait des exactions des nazis durant la Seconde Guerre mondiale, une guerre qu'ils ont perdue. Durant 2 ans, des scientifiques de l'université de Siegen ont mené ce qu'ils ont appelé la Leipziger Mittelstudie. Il s'agit d'enquêtes et de sondages pour comprendre et étudier la moyenne, le ventre mou de la société, cette classe sociale dans laquelle vivent la plupart des gens normaux, ce qu'on appelle les Allemands lambda. Et les chercheurs ont pu constater qu'il est désormais pensable pour certains de proférer des slogans d'extrême droite. Steffen Keilitz de l'Institut Hannah Arendt de recherche sur le totalitarisme à Dresde le confirme.
Les gens parlent de moins en moins à mots couverts. Le chef de l'AfD en Thuringe ose désormais se montrer comme à Chemnitz aux côtés de militants d'extrême droite et cela ne lui pose pas de problème que ces images circulent dans les médias. Il y a 2 ou 3 ans, cela n'aurait pas été possible.
Les extrémistes de droite refusent souvent de s'appeler ainsi et souvent ils se prétendent en dehors du jeu politique, ni de gauche ni de droite, comme dans l'extrait de la vidéo que nous entendions tout à l'heure. Cette pseudo-théorie de la troisième voie n'est pas nouvelle.
Les fascistes italiens et même une partie des nazis ont toujours prétendu n'être ni de droite ni de gauche. Cela dépend du point de vue, celui de l'observateur extérieur ou des militants.
Mais Steffen Keilitz met en garde contre cette façade de respectabilité. Dans les manifestations, on entend des slogans hostiles aux médias, Lügenpresse, la presse menteuse, équivalent du Journalop de l'extrême droite française. Et certains militants de Chemnitz appellent à la résistance contre le système. Ces partis comme l'AfD qui ont le vent en poupe en Europe mobilisent le potentiel d'une masse insatisfaite de son sort au ressentiment latent et parviennent à se poser en alternative politique, à telle enseigne que le discours de l'AfD a réussi à faire bouger les lignes, à rendre plus acceptables socialement des déclarations impensables il y a quelques années encore. Citons l'exemple du responsable du parti, Alexander Gauland, qui a minimisé le nazisme en le qualifiant récemment de « fiente d'oiseau » de l'histoire. Même si parfois les responsables du parti prennent leur distance ou reviennent sur de telles déclarations considérées comme des dérapages, les mots ont été prononcés et font leur bout de chemin. Ils obligent les médias, puis l'opinion publique à prendre position en fonction d'eux et imposent donc à la fois une partie des thèmes des discussions politiques et les termes du débat. Sans transition aucune, après avoir parlé de l'extrême droite qui monte en Allemagne, nous évoquons maintenant une dictature d'Amérique latine, celle d'Augusto Pinochet au Chili. Une ère féroce qui fera des dizaines de milliers de victimes de torture et qui commence le 11 septembre de l'année 1973. Parce que cette date a été un peu éclipsée dans les mémoires contemporaines par les attentats de New York le 11 septembre 2001. J'ai demandé à Franck Godichaud, spécialiste du Chili à l'université de Grenoble-Alpes, ce qui s'était passé ce 11 septembre-là.
Alors le 11 septembre 73, c'est une date dramatique pour le peuple chilien, puisque c'est la date du coup d'État du général Pinochet contre le gouvernement de Salvador Allende. Et c'est aussi une date qui marque la fin de ce qui a été appelé l'unité populaire et la voie chilienne au socialisme, donc une expérience de transformation sociale et démocratique de la société chilienne.
Qui est Salvador Allende, qui est au pouvoir depuis 3 ans au moment du coup d'État ?
C'est ça. Donc Allende, c'est un médecin, ancien ministre, dirigeant du Parti socialiste chilien. Et c'est une figure vraiment de la gauche parlementaire, de la gauche aussi marxiste, hein, chilienne. Et il est donc élu à la tête d'une coalition assez large, avec un discours très critique contre les États-Unis et notamment pour la nationalisation du cuivre, la grande réserve de minerais du Chili.
Cette vague de réformes sociales, de nationalisation que vous évoquez, n'a donc pas plu aux États-Unis, ce qui peut expliquer que le coup d'État de septembre est réussi après l'échec d'un autre coup d'État au mois de juin.
Effectivement, donc aujourd'hui, en tant qu'historien, on a les archives déclassifiées de l'ingérence et de l'intervention du gouvernement Nixon pour déstabiliser le gouvernement Allende. Il refusait absolument l'idée d'un deuxième Cuba, hein, en Amérique latine. Mais pas seulement, hein, il faut aussi voir ce qui s'est passé en interne, de grandes polarisations, de grands conflits sociaux au sein du Chili, qui expliquent qu'une partie de la population, des classes dominantes notamment, ont agi pour que les militaires organisent le coup d'État.
Et alors, sous couvert d'extirper le marxisme du Chili, je crois que c'était la formule consacrée, il y a eu une répression féroce qui se met en place dès les tout premiers jours du pouvoir de la junte.
Tout à fait. On retient souvent la figure, hein, martyr du président Allende, mort dans le palais présidentiel en flammes.
Le jour même, oui, du coup d'État.
Tout à fait. Le jour même du coup d'État, le palais présidentiel a été bombardé par les avions de chasse de l'armée. Mais il ne faut pas oublier que derrière la figure d'Allende, en fait, c'est des milliers de personnes, notamment, essentiellement, si on regarde les statistiques, des ouvriers, des syndicalistes, des militants, qui vont être assassinés, torturés, disparus par la dictature. Certains historiens parlent même de politicide, au sens où c'est vraiment un secteur politique de la société qui va être réprimé systématiquement.
Et il y a une telle masse d'arrestations que les prisons débordent et qu'il y a des lieux qui sont improvisés comme prisons et comme centres de torture.
Alors, non seulement parce que les prisons débordaient, mais aussi parce que les militaires vont organiser des centres clandestins de répression, de disparition, d'assassinats politiques, justement pour échapper au radar de la scène internationale qui commençait à faire pression sur la dictature de Pinochet.
Le régime Pinochet reste en place jusqu'en mars 1990, donc il a eu quand même une période vaste pour commettre toutes ces exactions. Et c'est en 2004 qu'une commission nationale qui était chargée de faire la lumière sur les prisons politiques et la torture publie son rapport Valech, je ne sais pas si c'est comme ça qu'on prononce.
Tout à fait.
Oui, et qui en 700 pages fait état donc d'une torture systématique, une torture, un terrorisme d'État.
Tout à fait. La transition démocratique, effectivement, c'est à partir de 90, mais cette reconstruction démocratique, elle se fait dans un Chili qui a été transformé, hein, par la dictature sur le plan économique avec le néolibéralisme, mais aussi une société qui est marquée par une grande impunité. Et donc ces commissions, il y en a une en 91 et une autre en 2004, comme vous l'avez dit, elles offrent pas la justice, mais l'État reconnaît qu'il y a eu terrorisme d'État.
Et maintenant, ça fait presque 30 ans que le régime Pinochet est tombé. Qu'en est-il du Chili de 2018 ? Alors, est-ce qu'il y a eu un ménage de fait au sein de l'administration, par exemple, des poursuites en justice ?
Alors, il faut vraiment souligner le combat permanent des associations, des familles de détenus disparus qui n'ont pas lâché l'affaire au cours des décennies, qui ont fait pression, qui sont mobilisés, leurs avocats aussi, certains juges le juge Juan Guzmán par exemple, qui ont pas abandonné cette bataille, donc il y a eu des condamnations, hein, quelques dizaines, presque 200 condamnations, il y a quelques dizaines de militaires en prison, mais vraiment il y a encore une large impunité et finalement ces nombreux responsables sont décédés sans avoir été condamnés. Et ça c'est quelque chose qui continue à peser sur le Chili démocratique actuel, tout autant d'ailleurs que le modèle néolibéral, disons, féroce qu'avait imposé la dictature.
Et est-ce qu'on peut attendre du régime Piñera, qui est à nouveau en place, davantage dans ce sens-là?
Alors là, le gouvernement Piñera, donc de la droite, entre centre-droit et droite dite dure, a annoncé la couleur, hein, dès les premières semaines. Non seulement il n'y aura sûrement pas d'avancée, mais c'est plutôt des reculs dernièrement, puisque certains responsables de torture et de la dictature qui étaient en prison sont en train d'être libérés sous condition. Alors bien entendu, c'est la Cour suprême, c'est pas Piñera lui-même qui accompagne ce mouvement, mais Piñera s'est montré très favorable à ce qu'il y ait un assouplissement en fait des peines contre les responsables emprisonnés de la dictature. Donc là, et disons que ce gouvernement actuel, il surfe plutôt sur la partie de l'opinion publique qui continue à louer Pinochet ou à penser que la dictature, ça a été un moment difficile mais nécessaire pour le pays. Donc en général, c'est vraiment les secteurs les plus aisés de la population. Ils sont minoritaires, hein, il ne faut pas exagérer, mais dernièrement, il y a vraiment quand même une résurgence de ces secteurs d'extrême droite au Chili qui est assez inquiétant.
Franco Dichot, grand merci.
Merci à vous.
Au revoir.
Au revoir.
Merci à Nicolas Martin pour les sons et Franco Dichot pour l'interview. Rendez-vous la semaine prochaine pour un prochain numéro de Droits et Libertés, même lieu, même heure.